Eh bien, pour introduire le discours de ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder un clip d'un spectacle de Louis-José Houd, un humoriste québécois très connu. Si vous ne le connaissez pas, ça va peut-être être votre bain, ça va être votre introduction à Louis-José Houd. Mais Louis-José Houd, dans ce clip-là, c'est un montage que j'ai fait moi-même. On a les droits de le présenter pour ceux qui se posent la question. Il parle vraiment avec franchise de son expérience avec l'avortement, puis les conséquences qui ont suivi cette expérience-là qu'il a vécue par rapport à l'avortement. Puis j'aimerais qu'on puisse juste écouter ce clip-là, ces 3 minutes, puis ensuite de ça, on va, comme guise d'introduction à notre discours de ce matin, puis on va en parler tout de suite après.
Non, parce que je pense qu'il arrive des situations, à un moment donné, dans la vie, où il y a quasiment juste ta mère là, qui peut te consoler, parce que la vie amène plein de choses qu'on ne prévoit pas. Je disais tantôt que tout ce que j'achète, ça pète. Un condom, là. Pas de quoi, c'est 1 fois sur 1000? Est-ce que tu penses à tomber? Ça allait plus pantoute, t'étais dans la pièce d'à côté, j'avais juste le goût de rentrer là, fait comme, OK, c'est niaiseux, c'est n'importe quoi, prends tes affaires, viens-t'en, moi, te faire une soupe. Dans 9 mois, tu vas te saucer comme ça. Ouh, elle est fraîche! Sauf que je suis resté assis là, je sais pas trop encore pourquoi. Je me suis mis à penser à ma vie, puis au choix que j'ai fait dans la vie, puis au parcours que j'ai eu, puis je me disais, Colin, que ça, c'était pas dans le plan. C'était tellement pas supposé arriver. Je m'étais tellement jamais imaginé là. Et puis, j'ai même pas eu le temps de finir de penser qu'elle est revenue. C'était terminé. Puis, elle s'est couchée. Et puis, j'ai pris sa main. Puis avec l'autre main, j'ai tellement déchiré le reçu. Puis, je l'ai regardé dans les yeux, là. Je me suis dit, plus jamais. Évidemment, c'est sûr, je ne suis vraiment pas le premier qui vit quelque chose comme ça. Sauf que moi, c'est pas fini. On arrive à la maison, je m'occupe d'elle, mais quand même, je prends le temps d'appeler mon père pour lui souhaiter bonne fête. Tu sais, elle s'était fait avorter la journée de la fête à mon père. Il y en a qui trouvent que le hasard fait bien les choses. Moi, le hasard, si je le vois par hasard, je lui pète la gueule. C'est pas fini. Il y avait un message dans ma boîte vocale. Et ce message-là, je vous le raconte le plus honnêtement du monde. Je serais con, je serais un peu dégueulasse d'inventer ça, là. C'est un message de mon gérant qui s'appelle Benjamin. Et là, ça dit, « Salut Louis, c'est Ben. Écoute, faut que tu sois au gala de Vrac TV dans 3 semaines. Vrac TV, c'est le poste pour les ados. Ils ont un gala belle fun, un anti-gala où ils remettent plein de prix comiques à plein d'artistes. Et là, il me dit, « Bravo mon vieux, tu viens de gagner l'artiste que vous aimeriez avoir comme père. » La journée de l'avortement. Ça, c'est pas arrivé à personne. Il n'y a personne que sa blonde s'est fait avorter de la journée de la fête à son père qui arrive chez eux qui se fait dire « Les jeunes de ton pays aimeraient t'avoir comme père. Ça se peut pas, la vie ne peut pas te cross-checker dans la face de même. » C'est pas fini. Et ça a été une dure épreuve dont on s'est pas remis. Un moment donné, elle est partie. Et là, ça a fait non. Là, ça a fait non. Là, je me suis retrouvé dans une zone où je n'étais jamais allé avant. Parce que les bad luck, au début, c'est correct. Quand tu regardes ça monter, là, c'est comique. Bon, tout ce que j'achète, ça pète. OK. Je lâche l'école. Ouais, OK. Ma boîte grenade pancette dans la rue. OK. Brûle les aisselles de genoux en Guadeloupe. OK. Mon père me traumatise avec une tente roulotte. OK. Amenez, mes parents se séparent. Ça fait comme, OK. Ma blonde se fait avorter. OK. Là, ma blonde s'en va. Non. Amenez, ça fait non. Amenez, je peux pas, là. Je peux pas suivre. Je peux pas suivre la parade. Je suis comme ça sur le bord de la route, là, puis je comprends pas, là.
Intéressant, n'est-ce pas? À ce que je sache, Louis-José Houd n'est pas chrétien. Mais même s'il ne croit pas que Dieu existe, on voit qu'il ne peut pas s'empêcher d'attribuer à la vie, entre guillemets, les caractéristiques et les attributs qui reviennent à Dieu. Comme si, au fond de lui, il savait que le hasard n'est pas une réalité satisfaisante, même qu'il mentionne le hasard, si je le rencontre par hasard, j'y pète la gueule. En effet, il parle de la vie, entre guillemets, comme si la vie, là, cross-checkée, une expression qui vient du hockey, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est quand un joueur de hockey prend son bâton comme ça, puis frappe un autre joueur, souvent dans le dos, puis l'autre joueur, ça fait très mal. Il prend son bâton, puis il met horizontalement, c'est ça, horizontal, vertical, horizontal, puis il frappe dans le dos. Louis-José dit, la vie m'a cross-checké d'en face, comme si la vie avait des intentions pour lui, des projets, des plans, puis il refuse d'accepter que tous ses malheurs et tous ses problèmes sont finalement ce que la vie a vraiment en réserve pour lui. Parce que si c'est ça, le sens de la vie serait totalement absurde. Il y avait des attentes par rapport à la vie. Puis ses attentes ont été déçues. Il termine sa description de sa série de « bad luck » ou de « malheur » ou d'épreuve en déclarant « je suis comme ça sur le bord de la route, puis je ne comprends pas ». Mais qu'en est-il de nous, les chrétiens? Est-ce qu'on n'est pas, nous aussi, très souvent au même endroit que Louis-José Hood, rempli d'incompréhension et d'attentes déçues? On se dit peut-être, Louis-José Hood, c'est normal qu'il vive plein de détours dans sa vie parce qu'il n'est pas chrétien. On a cette pensée-là des fois. Mais nous, c'est différent. Hein? On est enfant de Dieu, on est bien-aimé de Dieu. Ces détours-là ne vont pas nous arriver. Dieu ne laissera jamais arriver des choses mauvaises comme ça, arriver à ses enfants. On se dit ça jusqu'au jour où un membre de notre famille décède subitement ou après une lutte contre la maladie. Un père, une mère, un frère ou un enfant, puis là, on ne comprend plus rien. On se dit ça jusqu'au jour où notre couple se brise et notre famille est divisée. Et là, on est rempli de tristesse et de questionnement. On se dit ça jusqu'au jour où l'on perd notre emploi injustement parce qu'on a cherché à faire le bien, à être honnête et dire la vérité. Puis là, on a toutes sortes de questions pour Dieu. Puis on a le sentiment que Dieu nous a abandonnés. On se demande pourquoi Dieu me laisse sombrer dans des détours comme ça. Et comment Dieu peut-il dire qu'il m'aime s'il me laisse pris dans un détour? On a littéralement de la difficulté, moi le premier, à faire confiance à Dieu dans les détours et continuer à croire que Dieu est bon, bienveillant, qu'il veut notre bien malgré tout ce qui nous arrive. Tu vois, les détours de nos vies ont le pouvoir de venir remettre en question les convictions les plus profondes qu'on a sur Dieu et sur la vie. Et c'est pour ça que ce matin, c'est important, puis on veut réfléchir profondément à la question des détours pour être le plus près possible lorsqu'ils vont arriver. Don Carson dit, s'il y a une chose qui est certaine dans la vie, c'est qu'un jour, on va tous souffrir. À la sauce de Libération 21, on pourrait dire, si s'il y a une chose qui est certaine et sûre dans la vie, c'est qu'un jour, on va tous vivre de profonds détours. Cette semaine, on veut faire face à ces questions honnêtement. Pas les fuir ou les mettre en dessous du tapis. On ne veut pas les banaliser en disant qu'on ne devrait pas se poser ce genre de questions. Non, au contraire, Dieu nous invite à lui adresser nos questions, nos incompréhensions, nos doutes, notre tristesse et même notre colère. Donc, c'est ce qu'on veut faire cette semaine. Dans cette deuxième semaine de Libération 21, on veut se demander pourquoi on devrait faire confiance à Dieu dans les détours et comment y arriver, comment faire confiance à Dieu dans les détours. La semaine passée, on a vu avec Dominique l'importance d'être fidèle et obéissant à Dieu dans les détours, de ne pas échanger l'évangile de Jésus-Christ pour autre chose comme nos propres efforts ou des moyens humains d'obtenir la justice ou même de grandir dans notre foi. Non, on veut constamment revenir à l'évangile. Mais cette semaine, on veut se demander pourquoi on devrait continuer à faire confiance à Dieu quand on vit des détours si profonds et douloureux et comment y arriver. Mais avant de se plonger dans ces deux questions-là, il faut s'arrêter quelques instants et se demander que veut-on dire exactement par détour? C'est quoi au juste un détour? Norma, il y a deux semaines, nous disait que les détours sont des occasions et des circonstances dans nos vies auxquelles on ne s'attendait pas du tout. De notre perspective humaine, ça nous arrive assez souvent de rencontrer une pancarte « détour » quand on est en voiture. On prenait un chemin, on ne s'attendait pas que le chemin serait bloqué, mais il y a une grosse pancarte orange qui nous dit « détour » avec des flèches, qui nous dit de tourner à gauche ou à droite pour nous dire de prendre un autre chemin. Puis vous savez, c'est la même chose dans notre vie de tous les jours, pas juste en voiture. On est des créatures, donc on est des êtres finis et limités par le temps et l'espace. On est limité par nos cinq sens, puis on est surpris très souvent de rencontrer un détour. lorsqu'il se présente. On perd nos repères, un peu comme Louis-José Houd, puis on ne sait plus quoi croire bien souvent. Dans ces moments-là, si tu te demandes pourquoi tu devrais continuer à croire en Dieu et lui faire confiance, j'aimerais te dire que vraiment la seule raison de persévérer est que pour Dieu, ton détour n'en est pas un. Vois-tu que ce qui est un détour pour toi, une circonstance tout à fait inattendue, souvent décourageante, n'est rien pour Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas rien pour Dieu, mais pour Dieu, ce n'est pas un détour, comme toi tu le comprends. Parce que pour Dieu, il n'existe aucun détour. Toi, tu es une créature finie et limitée par le temps et l'espace. Mais Dieu, lui, est une créature, est le créateur, pardon, gros lapsus, le créateur de toutes choses, un être infini, sans limite, contrairement à toi. Il transcende le temps et l'espace. Il est au-dessus et au-delà du temps et de l'espace. C'est un Dieu transcendant. Non, Dieu n'est pas surpris de rien ni personne, car il contrôle toutes choses dans les moindres détails dans sa création. Normalement, ça devrait avancer, fait que je ne sais pas. Ah, voilà. Est-ce que c'est toi, Jean-Louis, qui l'a avancé ou c'est moi? Ouais. Fait que, si ça ne marche pas, peut-être juste je vais te faire des signes. Parce qu'on va voir beaucoup de passages bibliques, fait que ça va rouler. Dieu est totalement souverain sur le monde, nous dit la Bible. La Bible est remplie de passages qui nous décrivent la souveraineté de Dieu. Puis j'aimerais qu'on fasse juste un court survol de quelques passages. Il y en a encore plus dans la Bible. Si on prenait le temps vraiment de toutes les étudier, ça serait très long. Mais on va juste faire quelques survols pour voir à quel point la Bible nous enseigne que Dieu est souverain sur toute chose, sur tout ce qui existe. Il n'y a rien dans sa création sur lequel Dieu n'a pas le contrôle et sur lequel il n'est pas souverain. Dans sa souveraineté, Dieu fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, versets 2 et 3 nous dit « Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? » Au verset 3, « Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. » Psaume 135, verset 6, de même nous dit « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Non seulement ça, Dieu est souverain sur les hommes et sur la nature. En effet, dans Actes chapitre 17, versets 24 à 26 et le verset 28, on lit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et les limites des lieux de leur habitation. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, nous dit verset 28. On continue dans Matthieu chapitre 6, versets 26 et 30. On entend Jésus dans le sermon sur la montagne qui nous dit « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Votre Père céleste nourrit les oiseaux. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Au verset 30, « Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? » Un encouragement à faire confiance à Dieu, que Dieu va pourvoir à tous nos besoins. S'il prend soin des affaires qui, à nos yeux, sont si insignifiantes, les oiseaux du ciel et les fleurs des champs, à plus forte raison, nous, ses enfants, va-t-il prendre bien soin de nous? Dans Matthieu chapitre 10, dans la même ligne d'idée, Jésus nous dit « Ne vend-on pas deux moineaux pour une petite pièce? » Au verset 29 à 31, il dit « Cependant, pas un de ces moineaux ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. » Puis moi, à mesure que le temps avance, c'est de moins en moins. Évidemment. « N'ayez donc pas peur, nous dit Jésus, vous valez beaucoup plus que de moineaux. » Dieu fait tout ce qu'il veut. Il est souverain sur les hommes et la nature, mais Dieu est aussi souverain. La Bible va jusqu'à dire qu'il est souverain sur la volonté humaine et le cœur des hommes. Dans Proverbes 16, verset 9, on lit « Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » dans Jérémie 10, 23, « Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. » Dieu vient souverainement donner le bonheur et le malheur, la lumière et les ténèbres même. Le bien et le mal, dans sa souveraineté, c'est lui qui les apporte comme il le désire. C'est Job qui a dit, « Est-ce que je recevrai juste les bonnes choses de Dieu et pas aussi les mauvaises choses? » Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. On l'a chanté ce matin. Dans Ésaïe 45, verset 5, à 7, on lit, Dieu dit, on voit que Dieu dit au roi Cyrus, le roi Cyrus, auquel le prophète s'adresse, Dieu dit, c'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas. C'est afin que l'on sache, à l'est comme à l'ouest, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. C'est moi qui suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Le verset continue. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée le malheur. C'est moi, l'Éternel, qui suis l'auteur de tout cela. Tu vois, dans la souveraineté de Dieu, la paix et le malheur, tous deux viennent de Dieu. Dans les lamentations de Jérémie, au chapitre 3, verset 37, on lit, « Qui n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise si le Seigneur ne l'a pas ordonné? » N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les malheurs et le bonheur? Nous, les chrétiens, on a tendance à penser que Dieu va nous donner juste des bonnes choses, puis que les malheurs, ça nous vient peut-être de l'ennemi de Dieu, de Satan, d'un monde pécheur qui est contre nous. Mais plusieurs textes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament nous disent que dans la souveraineté de Dieu, dans son plan souverain, et le malheur et le bonheur, ultimement, viennent de lui. Si ce n'était pas Dieu qui décrète qu'ils arrivent dans nos vies, ces choses n'arriveraient pas dans nos vies. Même Dieu, on voit qu'il endurcit le cœur de qui il veut. Dans Romains chapitre 9, verset 18, on lit « Ainsi Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. » On a l'exemple de ça dans le livre d'Exode, chapitre 7, dans l'Ancien Testament, où on voit que Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. Au verset 3, on lit « De mon côté, j'endurcirai le cœur de Pharaon » et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. » Mais au verset 13 et 14, on voit que c'est le cœur du Pharaon qui s'est endurci. Dieu dit, Moïse écrit, « Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Pharaon. » Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Le Pharaon a le cœur insensible. Il refuse de laisser partir le peuple. » Très intéressant ici parce qu'on voit qu'en même temps que Dieu choisit d'endurcir le cœur de Pharaon, Dieu ne le fait pas contre la volonté de Pharaon parce que Pharaon lui-même décidait de refuser de laisser partir le peuple et d'endurcir son propre cœur. Donc, la souveraineté de Dieu implique qu'il fait tout ce qu'il veut avec les hommes et la nature. Il fait tout ce qu'il veut avec la volonté humaine et le cœur humain. Et c'est même de Dieu que peut venir le bonheur et le malheur. Le bien et le mal, il endurcit qui il veut. Vous savez, si Dieu était seulement souverain et transcendant, sans plus, comme on le dit, cela pourrait nous donner raison de détester Dieu, peut-être. Car on pourrait voir Dieu comme un Dieu méchant, froid et distant, qui contrôle de loin ses petites créatures comme il veut, sans égard ou sans souci pour elles, puis en violant même leur volonté propre. Si Dieu était seulement souverain et transcendant, ça ne serait pas nécessairement une bonne nouvelle pour nous. Mais heureusement, la Bible nous dit que Dieu n'est pas seulement souverain et transcendant, mais Dieu est aussi un Dieu bon, personnel et immanent. Dieu, oui, est souverain et transcendant, mais il est personnel et immanent. Et au-delà de tout ça, Dieu est un Dieu infiniment bon. La Bible insiste à maintes reprises sur la bonté infinie de Dieu et le fait que même si le mal se produit dans les limites de sa souveraineté, Dieu n'est pas l'auteur du mal et il n'est pas complice du mal. Dans Deutéronome chapitre 32, verset 4, on lit « Il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. Dans le Nouveau Testament, dans l'épître de 1 Jean, au chapitre 1, verset 5, on lit « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. » Dans Jacques, chapitre 1, verset 13, « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente. » Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. » Le théologien Don Carson, qu'on connaît très bien, il a fait certaines de ses études ici, il a même grandi ici au Québec. Son père, Tom Carson, était un des pasteurs fondateurs de l'Église Le Sentier. Mais Don Carson affirme que la Bible enseigne que le bien et le mal sont intégrés au plan souverain de Dieu. Mais Dieu ne se tient pas derrière le mal comme il se tient derrière le bien. Quand je dis se tenir derrière le mal, c'est qu'ultimement, on ne peut pas attribuer à Dieu le mal comme on lui attribue le bien. Ultimement, ça fait partie de son plan souverain. Mais par exemple, quand je fais le bien, je ne le fais pas en dehors des limites de la souveraineté de Dieu. C'est dans son plan souverain que Dieu permet que je puisse faire ce qui est bien. Et c'est même Dieu qui en est ultimement responsable. Même si c'est moi qui ai fait le bien, la Bible nous enseigne que Dieu, dans sa grâce, m'a donné le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Par contre, si je pêche puis je fais le mal, je ne pêche pas non plus en dehors des limites de la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas comme si Dieu a été pris de court, puis « Oh non, je n'avais pas prévu qu'il était pour pécher, puis j'aurais tellement voulu qu'il ne pêche pas, mais je n'ai pas pu rien faire, il a péché, puis il a fait le mal. » Non, mon péché et le mal que je commets se fait dans les limites et le plan souverain de Dieu. Par contre, Dieu n'en est pas responsable du tout, nous dit la Bible. Et il n'y a seulement que moi, et peut-être ceux qui m'ont influencé à faire le mal, qui en sommes responsables. En plus d'être infiniment bon, la Bible enseigne que Dieu est un Dieu personnel et immanent. Dieu désire avoir une relation personnelle, authentique et vraie avec ses créatures. Dieu est une personne. Comme chacun d'entre nous, les êtres humains, sommes des personnes. C'est vrai, par contre, que Dieu n'est pas une personne exactement comme nous. Parce que même si nous et Dieu, chacun, sommes des personnes, Dieu reste créateur et nous demeurons créatures. Mais Dieu est néanmoins une personne et il veut avoir une relation avec d'autres personnes comme nous. De plus, en plus d'être personnel, la Bible nous dit que Dieu est immanent, un Dieu qui n'est pas loin de ses créatures, mais qui est plutôt avec ses créatures. Dieu est près de nous et avec nous, nous dit la Bible. Ce n'est pas comme un horloger qui a construit une horloge, qui l'a crinquée ou remontée mécaniquement, puis qui la laisse fonctionner, puis il se tient à distance, puis il regarde l'horloge fonctionner, puis de temps en temps, peut-être qu'il va aller comme huiler un peu le mécanisme, de temps en temps, il va peut-être aller ajuster les aiguilles, puis le reste du temps, il reste à distance comme ça, puis il regarde son travail. Non, Dieu, ce n'est pas du tout comme ça. En fait, Dieu est plutôt activement en train d'intervenir dans l'univers à tout moment, depuis la création du monde, de telle sorte que s'il décidait d'arrêter de soutenir la création ne pourrait pas subsister. Et chacun d'entre nous, on mourrait, puis on arrêterait d'exister même. Dans Hébreux chapitre 1, verset 3, on lit « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne, de la personne de Dieu. Il soutient tout par sa parole puissante. » Et tout, c'est tout ce qui existe, tout ce qui est créé. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 15 à 17, on lit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. » J'espère que vous comprenez le message. Il n'y a rien qui n'est pas sous l'autorité de Jésus, puis qui n'a pas été créé pour lui, par lui et pour lui, mais tout a été créé par lui et pour lui, et existe, et Jésus lui-même existe avant toutes ces choses-là. Et le verset termine en nous disant, « Et tout subsiste en lui. » Donc, Dieu est bon, Dieu est personnel, Dieu est immanent, Il est près de sa création, dans sa création, il est avec nous. Et puisque Dieu est en relation personnelle avec sa créature, qui sont les êtres humains, il donne à ses créatures des lois, des commandements pour le bon fonctionnement de la création, puis pour notre plus grande joie. Puis ça implique que toi et moi, on a une responsabilité morale devant Dieu. On est donc responsable de nos choix. Tantôt, quand on a parlé de Pharaon, on a donné l'exemple de Pharaon. On a dit que, justement, Dieu a dit « Je vais endurcir le cœur de Pharaon ». Mais en même temps, on a dit, le texte nous dit que Pharaon lui-même a endurci son propre cœur et lui-même a refusé de laisser partir le peuple. Donc, tu vois, même si Dieu, les choses qu'on fait, les actions, les décisions, les choix qu'on prend sont dans la souveraineté de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous tient pas responsables. Non, la Bible nous dit que nous sommes responsables de nos choix. On est responsable de croire ou de ne pas croire en Dieu. On est responsable d'obéir ou de désobéir. On est responsable de soit se rebeller ou se soumettre à Dieu. Et on va devoir rendre compte, la Bible nous dit, à Dieu pour toutes nos décisions et nos choix. Et on voit ça dans plusieurs textes. Le texte d'Exode chapitre 7, qu'on a vu tantôt, c'en est seulement qu'un. Mais par exemple, si on va dans Josué chapitre 24, un autre des textes dans la Bible où Dieu nous invite à faire des choix, puis où on voit que nos choix sont significatifs, même s'ils sont faits dans la souveraineté et le plan souverain de Dieu, nos choix vraiment sont significatifs et ont de la valeur, font une différence. Dans Josué chapitre 24, on lit « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. » Le texte continue « Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Choisissez. Ce n'est pas juste comme vous allez choisir, mais dans le fond, c'est moi qui vais choisir pour vous. Non, c'est significatif. Josué dit, choisissez. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Même dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 3, versets 16 à 18, on voit cet appel à l'Évangile, puis cet appel à croire à Jésus. Ça nous dit au verset 16, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé d'un côté, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » On est donc responsable de croire ou de ne pas croire. Dieu met même le cœur des hommes à l'épreuve. Il va tester nos cœurs pour savoir ce qu'il y a dans notre cœur. Puis on y voit que Dieu nous donne donc la responsabilité d'obéir. Dieu ne nous force pas, mais il veut même, dans certains passages, on voit qu'il est en train de tester puis mettre nos cœurs à l'épreuve pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Pourtant, est-ce que les choses qu'on fait puis qu'on dit, ce n'est pas déjà dans son plan souverain? Oui. Mais en Exode chapitre 16, verset 4, on lit « L'Éternel dit à Moïse, je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. » Dieu va même supplier les hommes, sans les forcer, de se détourner de leurs péchés pour ne pas qu'ils finissent par mourir à cause de leurs péchés. Il ne nous force pas. Il nous tient plutôt responsables de notre décision. Dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 11, on lui dit leur, « Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais plutôt à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? » On peut presque sentir les larmes dans les yeux de Dieu, presque imaginer à quel point Dieu a le cœur brisé de voir son peuple refuser de revenir à lui et de renoncer à leur mauvaise conduite. Donc, tous ces textes et plusieurs autres nous montrent que pour Dieu, nos choix sont significatifs. Ils font une différence. Peut-être qu'ici, tu remarques comme une genre de contradiction dans les choses que j'ai dit jusqu'à date. Ça serait normal, tu n'es pas le seul. Peut-être que tu trouves que ça ne fait pas de sens ce que je suis en train de dire. Peut-être que tu te dis, Tu viens de nous dire que Dieu est absolument souverain, même sur les actions bonnes ou mauvaises des hommes, puis que Dieu ne dépend pas des choix humains. Puis ensuite, tu nous dis de l'autre côté que même les hommes sont responsables. Ces mêmes hommes-là sur lesquels Dieu est souverain sont responsables de leurs actions. Ils devront rendre compte à Dieu. Ça a l'air contradictoire. Quand on prend ces versets-là puis qu'on les met côte à côte comme on vient de faire ce matin. Mais en fait, ce que je suis en train de dire ce matin, je ne l'invente pas. Tout ce que je fais, c'est répéter ce que la Bible affirme. Je veux dire, j'ai voulu mettre tous ces versets devant nous ce matin pour qu'on puisse voir que ce n'est pas juste un genre d'argument philosophique qu'on est en train de monter, mais c'est des choses qu'on voit littéralement dans les Écritures. Puis on croit que les Écritures sont toutes inspirées de Dieu puis ne se contredisent pas. Puis justement, le théologien Don Carson nous dit qu'il y a un nom pour ça. C'est que la Bible affirme deux réalités qui, à première vue, semblent contradictoires, mais sont toutes les deux vraies, puis toutes les deux enseignées dans la Bible, mais compatibles l'une avec l'autre. Puis Don Carson appelle ça le compatibilisme. Le compatibilisme, c'est ces deux vérités qu'on voit à l'écran, qui toutes deux sont vraies, toutes deux enseignées dans la Bible, mais qui fonctionnent l'une avec l'autre d'une manière compatible. La première, c'est que Dieu est absolument souverain sur le monde, mais cela ne réduit pas la responsabilité morale de l'homme de choisir, de croire et d'obéir. Et la deuxième, c'est que l'homme est moralement responsable de choisir, de croire ou d'obéir à Dieu, mais cela ne rend pas Dieu dépendant des choix humains. Tu vois, la Bible affirme ces deux choses-là. Avec tous les textes bibliques qu'on a vus ce matin, c'est juste un petit aperçu. Il y en a encore tellement d'autres qui nous disent, qui nous enseignent la même chose, qui nous enseignent chacune de ces deux vérités-là. Ces deux choses-là, la Bible nous dit, sont vraies et sont compatibles. Dieu est souverain, mais ça ne réduit pas notre responsabilité. Alors que nous sommes responsables, les êtres humains, mais ça ne rend pas Dieu dépendant de nos choix. Comment ça peut fonctionner ensemble? La Bible ne le dit pas. La Bible dit juste que les deux sont vrais, puis que les deux fonctionnent ensemble, puis sont compatibles. Mais honnêtement, la Bible n'explique pas, ne donne pas de longues explications sur comment ça peut marcher puis fonctionner ensemble. Pour nous, les êtres humains, il demeure un mystère à savoir exactement comment ça peut fonctionner ensemble. Mais pour Dieu, il n'y a aucun mystère, parce que le mystère est résolu dans la personne même de Dieu. Parce que la nature de Dieu est d'être à la fois souverain et personnel en même temps. La nature de Dieu, c'est d'être à la fois transcendant et immanent en même temps. Et c'est cela qui peut nous aider à savoir non seulement pourquoi on devrait continuer à faire confiance à Dieu dans les détours, mais aussi comment on devrait faire confiance à Dieu dans les détours, comment y arriver. Vois-tu, même s'il n'existe aucun détour pour Dieu, parce que Dieu est souverain et transcendant, Dieu choisit de nous accompagner dans nos détours, parce qu'il est aussi personnel et immanent. Puis à chaque fois qu'on met l'emphase sur l'une de ces deux choses-là, soit sa souveraineté au dépens du fait qu'il est personnel, on commence à faire fausse route. Puis à chaque fois qu'on commence à mettre plus l'accent sur le fait que Dieu est personnel et immanent près de nous et qu'il se soucie de nous et qu'il semble réagir avec nos choix, Dieu semble être en train de réagir aux choix qu'on fait, comme s'il n'était pas en train de contrôler les choses. Quand on met trop l'emphase sur ça, au dépens de sa souveraineté, on est aussi en train de faire fausse route parce que la Bible vraiment affirme les deux avec force. Même si les détours ne sont pas, nos détours ne sont pas des détours pour Dieu, Dieu choisit de nous accompagner dans nos détours. Lamentations, chapitre 3, verset 31, nous dit que Dieu ne prend pas plaisir à humilier et à causer du chagrin ou affliger les hommes, mais qu'il fait preuve de compassion tant sa bonté est grande. Et juste un peu plus haut dans le chapitre, on lit que ses bontés et ses compassions se renouvellent à chaque matin. Au verset 22, les bontés d'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui et pour celui qui le recherche. Dans sa souveraineté et dans le fait qu'il est aussi un Dieu personnel, Dieu, en toute chose, demeure bon et bienveillant envers nous. Il nous accompagne dans nos détours, dans le but d'accomplir son plan souverain pour sa propre gloire et pour notre plus grand bien, pour notre plus grand bien et notre joie. Romains chapitre 8, verset 28, on ne l'a pas à l'écran, mais il nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux, je vais juste le lire, qui sont appelés conformément à son plan. Et juste un peu plus loin, on lit « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? » Parfois, le détour va être assez court. Parfois, il sera long. Parfois, il sera léger. Parfois, il va être très intense. Parfois, il va être moins douloureux. Parfois, il va être vraiment atroce dans la douleur. Mais Dieu promet que tout contribue à notre bien et que tout va nous être donné avec lui, avec Jésus, parce qu'il n'a pas épargné son propre Fils. Dieu a un plan qu'il poursuit. Et le fait que Dieu n'a pas épargné son propre Fils, ça nous prouve que Dieu, son plan, c'est un plan de bienveillance pour nous. Il est même allé jusqu'à livrer Jésus à la croix pour nous. Ce n'est pas un plan de malheur. Dieu ne nous donne pas toujours le privilège de connaître son plan. Mais ce qu'il désire, c'est qu'on puisse être rempli de confiance dans sa bonté et dans la bonté de son plan pour nous. On peut dire que Dieu n'a pas besoin d'utiliser le mal pour agir souverainement et nous faire grandir ou nous apprendre des choses. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a besoin d'utiliser dans le sens que Dieu n'est pas dépendant au mal. Dieu ne dit pas « sans le mal, je ne serais pas capable de leur apprendre des choses ou je ne serais pas capable de les faire grandir ». Non, au contraire, Dieu n'est pas dépendant de rien. Mais une fois que le mal est présent dans le monde, Dieu peut l'utiliser souverainement et va l'utiliser souverainement pour arriver à produire un bien qu'on n'aurait jamais pu imaginer. C'est un peu ce qu'on nous a rapporté dans l'histoire même de Joseph, qu'on va voir dans les groupes maison cette semaine, comment Dieu, dans sa providence et dans sa souveraineté, dirige les événements de la vie de Joseph pour arriver à la fin à un bien que Joseph n'aurait jamais pu imaginer, que son père et ses frères et sa famille n'auraient jamais pu imaginer. Alors, comment arriver à faire confiance à Dieu dans nos détours? Je pense que la solution est de revenir encore une fois à l'Évangile, puis de considérer l'exemple de Jésus, qui a vécu le plus grand détour qui a jamais existé. Jésus a non seulement vécu le plus grand détour qui a jamais existé, mais Jésus a choisi volontairement d'entrer dans ce détour-là par amour pour nous. Dans Actes chapitre 4, les disciples viennent de se faire arrêter pour le nom de Jésus et ils se mettent à prier. Dans leur prière, ils vont dire « Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. » Et au verset 28, on lit « Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. » Ça ne peut pas être plus clair que ça. Le plus grand mal jamais commis dans l'histoire du monde a été commis par Hérode, Ponce Pilate, par les nations et les peuples d'Israël, puis ils en sont tenus responsables. Le texte nous dit, c'est vrai, ils se sont ligués contre Jésus pour opérer la mise à mort du Fils de Dieu. La pire chose qui est arrivée dans l'histoire du monde. Mais le verset 28 nous dit que tout ce qu'ils ont fait, c'est d'accomplir ce que la main et la volonté de Dieu avaient décidé d'avance dans sa souveraineté. À partir du plus grand mal qui a jamais existé, Dieu a produit le plus grand bien qui a jamais existé. C'est incroyable. L'Évangile du salut par grâce qui nous sauve, nous, des pécheurs rebelles, comme moi et toi, a été accompli et est surgi et ressorti du plus grand mal qui a été commis sur la terre. Et Jésus a volontairement choisi ce détour à la croix par amour pour moi et pour toi, afin que nous puissions à notre tour éviter ce détour-là dans nos vies, celui qu'on méritait tant, de mourir pour nos péchés. Alors, comment faire confiance à Dieu dans les détours? C'est en fixant les regards sur la réalité de l'Évangile. Dieu nous exhorte à courir à travers le détour qui est devant nous. Dans Hébreux 12, 2, on dit, il nous exhorte à courir en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Jésus, en échange de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. À suivre l'exemple de Jésus-Christ, à regarder Jésus, à regarder à la croix pour obtenir la grâce et la force d'être confiant en Dieu dans les détours, de placer notre confiance en Dieu, même au sein des détours. J'aimerais terminer avec cette citation d'un catéchisme qui a été écrit en 1563, le catéchisme de Heidelberg. Un catéchisme, ceux qui ont l'expérience de l'Église catholique, vous savez que c'est une série d'enseignements sous la forme de questions et de réponses. Eh bien, à la question 27, on a tellement un beau résumé des vérités qu'on a entendues ce matin, la question 27 et 28, que j'aimerais qu'on puisse les lire ensemble. Dans le catéchisme de Heidelberg, qui date de 1563, on lit « Qu'entends-tu par la providence de Dieu? » La réponse, c'est la force toute-puissance et partout présente de Dieu, par laquelle il maintient et conduit comme par la main le ciel et la terre avec toutes les créatures, de sorte que les herbes et les plantes, la pluie et la sécheresse, les années de fertilité et celles de stérilité, le manger et le boire, la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté. Bref, toutes choses ne nous viennent pas du hasard, mais de sa main paternelle. Question 28. À quoi nous sert-il de connaître la création et la providence de Dieu? La réponse, à être patient dans l'adversité, reconnaissant dans la prospérité et à garder confiance, quoi qu'il arrive, en notre Dieu et Père fidèle. Aucune créature ne peut nous séparer de son amour puisqu'il les tient toutes tellement dans sa main qu'elles ne peuvent agir ni se déplacer sans sa volonté. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci de ces vérités qui nous sont tellement évidentes dans les Écritures, qui nous sautent aux yeux ce matin. Et on prie, Seigneur, que tu puisses les utiliser pour nous aider à avoir confiance en toi, nous aider, Seigneur Jésus, à garder, à rester attaché à toi, Seigneur, dans les détours, malgré nos circonstances. Seigneur, donne-nous par ta grâce la force de se confier en toi, quoi qu'il arrive. Amen.